BPM, élection départementale 2021.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le second tour des élections départementales aura lieu ce dimanche 27 juin. À cette occasion, BPM vous propose aujourd'hui des émissions spéciales. Les candidats pour le canton de Vernon viendront répondre à nos questions. Et nous accueillons ce matin Emmanuel Camoin qui représente le binôme du Rassemblement National pour le canton de Vernon, Pierre Duval, Emmanuela Jiménez. Alors Emmanuel Camoin, bonjour.
Bonjour.
Alors, lors de ce premier tour, la liste de Sébastien Lecornu et Catherine Delalande est arrivée en tête avec 58,74% de vote, suivie de Pierre Duval et Emmanuela Jiménez avec 17,64%. Ces deux listes sont donc qualifiées pour le second tour. En troisième position, nous retrouvons Pierre-Yves Jourdain et Bérénice Lipiec avec 16,15%. Et enfin, Sébastien Houry et Ilnur Pollat terminent avec 7,48%. La liste menée par Sébastien Lecornu n'a pas remporté ses élections au premier tour, car ils n'ont pas eu 25% de vote des inscrits. Vous concernant, vous, Emmanuel Camoin, vous avez également réussi à passer ce premier tour.
Oui, bien sûr, avec 30%. En définitive, sur les endroits où nous sommes très bien implantés, nous avons réussi à obtenir à 2-3 points près le même score que sur 2015. Cependant, tout ça, c'est à pondérer avec les taux d'abstention. Ce que je peux remarquer, moi, sur la ville de Vernon, et vous l'avez fait assez justement remarquer, le ministre Lecornu n'obtient que 58% et n'est pas qualifié sur le second tour. Je trouve, par rapport au résultat de d'autres de ses collègues, et notamment le président du département qui a plus de 60% sur son canton, mais qui lui non plus est obligé de faire un deuxième tour, je trouve que le score de Lecornu est quand même assez symptomatique d'une incapacité pour les gens de se reconnaître dans les binômes qui proviennent du LR et qui sont LREM. Sébastien Lecornu aurait dû être largement plus haut dans les sondages si son action avait été reconnue positive par les habitants de la ville de Vernon. Sur l'ensemble des scores que nous avons obtenus, évidemment, c'est une déception. L'ensemble des analystes disent que c'est surtout notre électorat qui ne s'est pas déplacé, et on a même des scores qui nous indiquent que 70% de notre électorat ne s'est pas déplacé. Ce qui veut dire que une élection, ça se joue en deux tours. Ce qui était important, c'était de se qualifier pour le premier tour, ce que nous avons fait dans nombre de cantons de l'Eure. Et maintenant, on est dans une situation où on attaque un deuxième tour avec des positions beaucoup plus claires, puisqu'il y avait, je reprends le cas de Sébastien Lecornu, on ne sait plus trop s'il est de droite, de gauche, s'il est macroniste, s'il est sarkozyste ou je ne sais quoi. Et c'est vrai pour d'autres candidats du département. Les positions sont beaucoup plus claires et les électeurs maintenant vont avoir à trancher entre des candidats du Rassemblement National et un ensemble de candidats soutenus par La République En Marche et quelques LR. Bien que je constate que le président des LR de l'Eure, Guy Lefranc, a fait une action pour demander le retrait d'investiture LR à la seconde au binôme, la femme de Sébastien Lecornu. Donc pour les LR, c'est pas non plus très clair. Ce qui est important, c'est pour nous de dire à notre électorat, maintenant, mobilisez-vous. Vous avez effectivement boudé ces élections pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le gouvernement a tout fait pour ne pas éclairer les électeurs sur l'existence d'une élection au 21 juin, jour de la fête des Pères. Il n'a rien fait pour les éclairer. Un deuxième problème qui s'est posé, c'est que la distribution des professions de foi, même si on peut mettre de côté le fait que des professions de foi ne sont pas arrivées à destination des électeurs, la distribution des professions de foi chez les électeurs a été faite de manière complètement farfelue. Certaines professions de foi, notamment celles des départementales, ont été expédiées à l'intention des électeurs un mois avant l'élection. Donc on décroche, on peut complètement décrocher entre le moment où on reçoit les plis électoraux et le moment de l'élection. D'autres professions de foi, les autres professions de foi ont été envoyées la semaine précédant l'élection. Bon, là, on est dans un mode normal. Mais ce qui est plus aberrant, c'est qu'on a des cantons où on a inversé, c'est-à-dire qu'on a envoyé la profession de foi des régionales un mois avant et celle des départementales une semaine avant. Donc on ne sait plus très bien ce qui est la politique du gouvernement. La réalité, c'est que le choix de la société Adraxo contre un service public qui est la Poste, même si maintenant la Poste est privatisée, a été probablement un mauvais choix. Il a été guidé uniquement par des considérations financières en se disant pour ces élections-là, il faut qu'on dépense le moins possible, ce qui est peut-être une idée qui n'est pas forcément idiote quand on sait que la dépense effectuée par le gouvernement et par l'ensemble des Français pour régler la crise du Covid. Mais dans ce cas bien précis qui est une élection, il y a un moment où le service public doit être supérieur à des considérations bassement matérielles et bassement économiques. On est certain maintenant, par les expériences des précédentes élections qui ont eu lieu en France, que le service de la Poste est supérieur au niveau de la distribution et au niveau de la qualité. Et si on veut avoir des élections qui soient représentatives du sentiment des électeurs, il faudrait au moins que ceux-ci soient informés. Et il faut remettre complètement à plat cette délégation de service public qui a été faite à Adraxo. On sait qu'ils ne sont pas compétents. Aujourd'hui, à Adraxo, d'ailleurs, on a la remontée de beaucoup de gens qui nous disent, notamment des gens qui sont en recherche d'emploi, chômeurs ou intérimaires, qui nous disent que Adraxo est en recherche permanente de distributeurs sur l'ensemble du département pour pouvoir distribuer de manière plus rigoureuse, je dirais, les plis électoraux à destination des électeurs. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, quand même, dans ce cadre-là, on ne peut pas demander un minimum de compétences aux gens qu'on emploie ou plutôt un minimum de formation afin d'obtenir une information claire, c'est-à-dire avec une distribution des plis électoraux chez les électeurs. Vous voyez, donc en global, je veux dire qu'on a mis toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait le moins de gens qui puissent venir voter aux élections. Maintenant, effectivement, avec les débats que l'on a eus à la suite de ces élections et l'ensemble de la presse qui a repris les informations nécessaires pour informer les électeurs, on peut supposer que demain, c'est-à-dire dimanche, les gens seront au courant qu'il y a une élection, ils seront au courant du nom des candidats qui se présentent et des mouvements politiques qui représentent, y compris d'ailleurs le nom des candidats qui sont des représentants officieux de La République En Marche, soutenus par derrière par Sébastien Lecornu et qui ont préféré cacher leur étiquette politique plutôt que de se prendre une gamelle de premier tour.
Alors avant d'aborder la suite de l'émission, on rappelle Emmanuel Camoin que vous avez 61 ans, vous êtes chef d'entreprise et conseiller régional de Normandie sortant et vous êtes également candidat du Rassemblement National aux élections départementales mais pour le canton de Conches-en-Ouche. Vous représentez donc pour nous le binôme du Rassemblement National pour le canton de Vernon, Pierre Duval et Manuela Jiménez. Donc dans cette émission, on va aborder plusieurs volets des compétences du département. Alors tout d'abord, on commence avec une première compétence, l'action sanitaire et sociale. Quelles sont les difficultés sociales des Eurois et comment y remédier ?
Les difficultés sociales des Eurois, elles sont indirectement liées avec, je dirais, la grande pauvreté, des taux de chômage importants que l'on retrouve sur le département et qui conduisent directement ou indirectement vers une nécessité de plus en plus importante d'avoir accès au RSA. La partie sociale, et évidemment sur le département, c'est l'ensemble des EHPAD, l'ensemble de toutes les aides sociales qu'on peut qu'on peut retrouver. Des points que nous, sur cet ensemble-là, nous avons critiqué et que nous avons d'ailleurs nous avons manifesté là-dessus, c'est la volonté qui a été de répartition de migrants en situation irrégulière sur l'ensemble des territoires de l'Eure. Nous avions manifesté à l'époque sur des projets de la préfecture qui ont d'ailleurs été un petit peu abandonnés. Tout ça, ça implique des coûts très importants pour le département qui s'accumule avec l'aide sociale obligatoire qu'on doit avoir vis-à-vis de ceux qui sont les plus défavorisés sur notre département et aussi indirectement sur quelque chose qu'on oublie beaucoup dans cette élection mais qu'il faut mentionner, c'est toute la partie du logement des HLM, tout le logement social. Les départements ont été sollicités par les préfectures, ont reçu éventuellement des dotations de l'État, mais qui ne sont pas forcément suffisantes, afin de rénover une partie du logement social pour l'accueil de migrants en situation irrégulière. Tout cet argent qui a été dépensé fait qu'une partie de population, je pense notamment les gens de Cerquigny, quand nous avions manifesté que nous avions rencontré dans les HLM, qui nous montraient l'état de leur logement, leur habitat social, hein, de leur logement HLM, en disant voilà, on ne nous fait pas de rénovation, on réclame mais on ne nous donne jamais rien. Et d'un autre côté, vous voyez, on a refait des appartements à neuf, on a amené là-dedans des machines à laver, enfin tout un ensemble d'équipements qui coûtent relativement cher. Et tout ça, c'est au détriment de nous, les Français, qui sont un petit peu les oubliés de cet ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de dire et d'expliquer à la population et à l'ensemble des gens qui votent pour nous. C'est-à-dire que les aides, toute la partie sociale qui est distribuée par les départements doit être obligatoirement distribuée à l'ensemble des Français et à l'ensemble évidemment aussi des étrangers qui peuvent se trouver en situation régulière et qui sont souvent en situation régulière sur le département.
Alors toujours concernant l'action sanitaire et sociale, comment est-ce que vous comptez lutter contre les déserts médicaux qui touchent particulièrement le territoire du département ?
Alors les déserts médicaux, j'en avais d'ailleurs parlé déjà la dernière fois, il y a deux points à avoir, c'est-à-dire toute la partie médicalisée, je dirais en général généraliste, mais avec toute la partie infirmière, kiné, etc., etc., et la partie spécialiste. Sur les généralistes, sur cette partie-là, en tout cas sur le canton sur lequel je me présente, mais c'est aussi vrai dans beaucoup de cantons de l'Eure, des aides ont été faites et nous continuerons d'ailleurs ces aides pour gérer des maisons médicalisées. Ces maisons médicalisées sont de toute manière indispensables. La politique qui a été menée par le gouvernement aujourd'hui au niveau de la santé, c'est global, c'est pas spécialement sur notre département, c'est de concentrer l'ensemble des spécialités et des techniques de spécialistes sur des pôles de santé qui sont en général des hôpitaux, avec en contrepartie d'ailleurs des fermetures. Je pense que ce qui a interpellé beaucoup de gens, par exemple la maternité de Bernay et les questions qui se posaient et qui étaient sous-jacentes sur cette fermeture de la maternité de Bernay, de dire comment va-t-on faire maintenant en cas d'accouchement et d'accouchement difficile pour aller dans la zone où il y avait cette maternité, pour aller sur l'hôpital d'Évreux, qui est peut-être le plus proche, ou éventuellement Lisieux, ou je ne sais pas trop, autour, dans des grands centres hospitaliers. Donc, tout cet ensemble-là est aussi lié à une politique des transports. Pour dire que pour nous, notre position aujourd'hui est de dire que nous avons une nécessité de faire un pas, de revenir un petit peu en arrière, de manière à maintenir réparti beaucoup plus équitablement sur le territoire un certain nombre de techniques médicales que l'on a supprimé, de faire de l'investissement dans des hôpitaux qui étaient répartis sur le territoire, qui ont été un petit peu oubliés, plutôt que d'aller faire des investissements massifs sur les sur des hôpitaux comme Évreux. Le deuxième point qu'on peut signaler, là on parle des généralistes, des généralités hein, de la médecine, mais on doit aussi penser aux spécialistes. Et là c'est un deuxième problème qui est plus important, en sachant que des grands bassins de population comme Évreux et l'agglomération d'Évreux se retrouvent en déficit d'un certain nombre de spécialistes, cardiologues, dermatologues, gynécologues. Donc, par exemple, les gynécologues qui sont quand même des professions médicales indispensables à répartir sur l'ensemble du territoire. Et en contrepartie de cette analyse, on sait très bien que tous ces spécialistes-là, on peut les retrouver sur le CHU de Rouen. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de la population qui n'a d'autres possibilités pour se faire soigner et pour avoir les techniques médicales de pointe, d'aller se déplacer sur Rouen. Alors, la position, je l'ai dit, c'est plutôt d'avoir une meilleure répartition de toute cette offre-là sur le territoire. Après, ce que peut faire le département, ce qui fait déjà d'ailleurs dans certains cas de figure, c'est de faire des aides au transport avec des taxis médicalisés ou autres. Mais c'est pas la solution et c'est pas la solution la plus économique que l'on puisse avoir. Donc c'est une réflexion globale qui ne se fait pas uniquement au niveau d'un conseil départemental, qui se fait en général avec la région, puisque la région est en charge des moyens de transport, qui se fait évidemment avec les départements et les communautés de communes, directement d'ailleurs les communes qui font partie de ces communautés de communes, ce qui me paraît indispensable avec l'ARS. C'est tout cet ensemble-là qu'il faut mettre autour d'une table et essayer de trouver des solutions de manière à diminuer le déficit marquant du département de l'Eure en offre médicale.
Poursuivons avec l'enseignement. En quelques mots, qu'est-ce que vous mettrez en place pour les collèges ?
Alors les collèges, il y a déjà une question majeure qui se pose et qui a été faite par la précédente majorité dirigée par Sébastien Lecornu, c'est la fermeture des collèges. Or, on sait très bien qu'au niveau du corps des enseignants, on réclame d'avoir une meilleure répartition des élèves dans les classes. À partir du moment où vous fermez des collèges et que vous ne donnez pas de solution intermédiaire, c'est-à-dire est-ce qu'on ferme le collège avec pour objectif d'en construire un autre, est-ce qu'on ferme le collège afin de le réhabiliter, de régler des problèmes d'amiante, je ne sais pas, ou d'accessibilité incendie, si on ne nous donne pas les raisons exactes, et dans tous les cas, je pense notamment au collège d'Évreux, dans ces cas de figure, la conséquence a été que l'on a réparti un certain nombre d'élèves qui étaient centralisés dans un collège, pas Bonneruta, on a réparti l'ensemble de ces élèves sur les autres collèges de la aux alentours. Ce qui crée de manière importante une augmentation des élèves par classe, et donc on est à l'opposé de ce que réclamait le corps enseignant pour assumer une meilleure qualité des études. Donc pour nous, une fois qu'on sera au conseil départemental, la première chose à voir, c'est comment faire pour pouvoir répartir aussi de nouveau l'ensemble des collégiens sur l'ensemble des bâtiments appartenant au conseil départemental, et notamment les collèges qui sont fermés, comment on fait pour réhabiliter ces collèges et pour pouvoir répartir un peu plus harmonieusement le nombre d'élèves par classe. Tout ça étant en parallèle, en négociation aussi avec l'éducation nationale, parce que nous, en tant que conseillers départementaux, nous avons à gérer toute l'infrastructure autour de l'élève, mais la partie éducation de l'élève est gérée par l'éducation nationale, et les professeurs ne sont pas payés par le conseil départemental, mais sont payés par l'éducation nationale. Donc si l'éducation nationale n'est pas capable de fournir les moyens financiers pour pouvoir et humains d'ailleurs aussi, pour pouvoir répartir plus d'enseignants sur l'ensemble des villes de l'heure, à ce moment-là, on sera dans une impasse. Donc c'est aussi un travail à pouvoir mener avec tout l'ensemble de ces intervenants. Un deuxième problème qui se pose, qui est un problème majeur, et ça on l'a vu sur les derniers mois, des problèmes de violence et d'attaques avec des mortiers sur les collèges. Donc là, ça demande un renforcement des moyens de surveillance, c'est-à-dire que le conseil départemental doit augmenter ses équipes de manière à assurer la sécurité des professeurs et des élèves dans les collèges, et doit en parallèle travailler sur une augmentation des systèmes de vidéo de surveillance dans le périmètre, enfin à l'intérieur des collèges, puisque c'est à l'intérieur des collèges que le conseil départemental peut travailler. Et après, en harmonie, je dirais, avec les communes, pouvoir étendre en périphérie un système de vidéo de surveillance pour pouvoir dire aux voyous qui voudraient s'amuser à attaquer les collèges et à racketter ou distribuer de la drogue ou en périphérie des collèges, pour pouvoir leur dire attention, vous êtes surveillés, déplacez-vous peut-être ailleurs, quoique c'est pas notre volonté, mais ne venez pas là on vous coincera.
Emmanuel Camoin, merci d'avoir accepté notre invitation. L'émission touche déjà à sa fin. Cette émission sera rediffusée à midi. Tout à l'heure, à 8h30, nous recevrons Sébastien Lecornu, candidat de la liste Ensemble pour l'Eure pour le canton de Vernon. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.